Après plusieurs semaines d'absence, la chose commune revient. Et ce temps de confinement a mis en lumière un paquet d'aspects cachés, volontairement ou non, de notre société humaine et de ses liens avec son environnement. On a vu sortir plein d'animaux qui se sont autorisés à montrer leur bout du nez, alors que d'habitude ils prennent bien soin de se cacher par peur du bruit que l'on fait. Un exemple notable est le monde des oiseaux. Pendant plusieurs semaines, on a pu profiter de leur chant, qui habituellement est couvert par les bruits ambiants des humains. Ce rappel de leur existence est surtout le rappel des difficultés de ces espèces à vivre décemment. On sait que de nombreuses espèces ont des populations en chute libre, ce qui va avoir des conséquences à long terme sur le vivant. Pour en parler, j'ai échangé au téléphone avec deux membres du groupe de la Ligue de protection des oiseaux du Loir-et-Cher, Didier Nabon, son délégué, et Alain Calais, ornithologiste et adhérent. Bonjour Monsieur Nabon, bonjour Monsieur Calais.
Bonjour.
Alors vous faites tous les deux partie de la Ligue de protection des oiseaux du Loir-et-Cher.
Exactement.
Est-ce que déjà dans un premier temps, très rapidement, vous pourriez nous présenter cette association s'il vous plaît?
Eh bien écoutez, oui, moi je suis le délégué départemental de la Ligue pour la protection des oiseaux, dont j'ai créé ce groupe en juin 2010. Donc c'est ce groupe a 10 ans bientôt, et c'est une association, un groupe pardon, qui aujourd'hui comporte près de 400 adhérents, qui est une très belle progression sur le plan départemental, avec un comité de pilotage d'une vingtaine de personnes qui se réunissent régulièrement tous les mois avec beaucoup de d'ardeur pour les projets nombreux que nous conduisons. Il y a beaucoup de choses à faire dans le département, comme partout. La biodiversité est menacée, on va en parler tout à l'heure. Et l'LPO est à la manœuvre sur beaucoup de projets. Donc, vous avez déjà, bien sûr, pris connaissance, hein, les oiseaux des fermes et des vignobles, gestion des rongeurs par les rapaces, des terrains des ailes, etc. Et ça, on en parlera tout à l'heure si vous le souhaitez.
Oui, tout à fait. Et donc, du coup, je vais commencer un petit peu à m'adresser à Monsieur Calais. J'ai cru comprendre que vous étiez ornithologue, pardon. L'ornithologie, c'est votre métier ou c'est votre passion?
Le mot amateur est souvent un peu péjoratif par rapport aux professionnels, parce que bon, l'ornithologie n'est pas une profession reconnue. Bon, être ornithologue, ça ne demande pas des années d'études, vous voyez, hein, c'est... Et on est toujours amateur dans le sens qu'on y a toujours des progrès à faire, hein, et c'est une science qui est, on peut parler de science, hein, pour certains travaux d'ornithologie, mais c'est une science qui évolue sans cesse et qui est très, c'est très difficile, hein, parce que ça fait partie, bon, déjà de toutes les sciences de la vie et de la terre, hein, comme la botanique, comme mais moi je suis amateur pratiquement depuis depuis que j'ai tombé amoureux de la Sologne, bon, c'est en 1978, depuis le début de ma carrière professionnelle d'enseignant, oui. Voilà.
D'accord. Du coup, j'avais quelques questions justement vous, sur la faune des oiseaux, alors plus généralement en France, mais plus particulièrement peut-être en Loir-et-Cher, où vous avez peut-être plus de compétences. On commence un petit peu à le savoir, qu'il y a un grand péril sur la biodiversité actuellement. Qu'en est-il pour les oiseaux?
Alors pour les oiseaux, il faut distinguer bon, plusieurs choses. C'est que dans le Loir-et-Cher, le Loir-et-Cher du sud au nord et même en diagonale, parce qu'il y a la Loire qui traverse. Hein, bon. Donc on dispose de milieux naturels exceptionnels, que ce soit la Sologne, la Loire ou même la Petite Beauce ou le Perche. Donc ce n'est pas un reflet de ce qui se passe dans la biodiversité nationale, si vous voulez. Vous voyez? Donc, il y a des milieux qui s'appauvrissent, hein, tels que le bocage, enfin les milieux cultivés. Bon, on voit ça en Sologne où l'agriculture est en régression. Bon, disons, il y avait quand même une plus grande surface agricole il y a 40 ans, 50 ans. Et bon, il s'en est suivi pas mal d'abandons de fermes, d'exploitation. Mais la Sologne, tu voyais particulièrement, et puis la Loire, hein, qui est classée au patrimoine mondial, la Sologne est une zone humide continentale d'importance internationale pour la qualité de ses milieux, pour les oiseaux nicheurs, les oiseaux aquatiques nicheurs, même s'il faut savoir que la Sologne est en grande partie boisée. Et grâce aux propriétés privées et à ces surfaces boisées et humides, on a des espèces exceptionnelles en France et même en Europe. Et il y a aussi la Loire qui est dont le niveau d'eau est variable, donc qui accueille des migrateurs, des grands migrateurs, qui est aussi une zone de nidification quand le niveau d'eau est assez bas. C'est pas le cas tous les ans, ou plus ou moins, c'est plus ou moins tôt, plus ou moins bon. Et puis on a la petite Beauce et le Perche. Donc il faut avouer qu'on est gâté dans le Loir-et-Cher, hein. Ça, j'y tiens. Et donc en ce qui concerne les oiseaux, on a des espèces qui sont rares sur le plan national et européen, en Sologne par exemple. Des canards nicheurs, des laridés, c'est-à-dire de la famille des mouettes, une population de rapaces. Oui, je suis un peu enroué. Une population de rapaces importante en Sologne, d'oiseaux de proie, tels que le balbuzard pêcheur, qui niche à Chambord d'ailleurs, et dans des propriétés privées, le circuit de Jean Leblanc. Ce sont des oiseaux de proie qui sont, sans être rares, sont quand même peu commun, vous voyez, peu fréquent en France. Ce sont des oiseaux très spécialisés sur, comme le circuit Jean Leblanc, qui se nourrit de reptiles, vous voyez, de serpents, le balbuzard pêcheur qui se nourrit de poissons. On a, qui sont de grands migrateurs, donc c'est une terre d'asile et une terre d'accueil pour les migrateurs, aussi bien l'hiver pour les canards, et les hérons aussi, les ardéidés, donc la famille. Et puis une zone de nidification importante sur le plan national, et là pour certaines espèces aquatiques, comme les canards encore, comme les guifettes moustaques, les grèbes. Enfin, on est particulièrement gâté en Sologne. C'est pour ça que j'essaierai de transposer un peu dans d'autres régions, vous voyez, pour parler des menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs, parce qu'on se rend compte quand même qu'en Sologne, les hirondelles ont du mal à nicher dans certains villages, elles sont moins nombreuses, et d'autres espèces, voilà, aussi.
D'accord, donc on sent que, alors, au niveau du territoire, on a cette diversité, on a quelque part cette chance, mais est-ce que pour autant, il n'y a pas quand même des menaces sur ces populations d'oiseaux ?
Ben, il faut avouer que ça demanderait une analyse un peu plus longue. Il y a des espèces qui se portent bien, curieusement, mais qui sont des espèces dites anthropophiles, c'est-à-dire des espèces qui ne nichent pas au creux des forêts, vous voyez. On a le balbuzard pêcheur qui tolère une certaine proximité, puisqu'il y a un petit noyau de population qui se reproduit sur des pylônes en Sologne de l'Est, vous voyez. Et ça, c'est un bel exemple d'adaptation aux installations humaines, hein, en l'occurrence des installations électriques. On a des espèces qui sont dynamiques, et par contre, on a des espèces qui sont en régression. À l'opposé, certaines espèces, moi je note que les bruants, les passereaux, vous voyez, étant donné que les exploitations agricoles sont en diminution, donc on a un certain nombre d'oiseaux qui sont moins nombreux, et ça a été constaté. Alors, c'est certainement un effet aussi de la diminution globale des insectes, de la population d'insectes. Ça, c'est une évidence, hein. Mais grâce aux propriétés privées et puis grâce à la situation, la Sologne n'est pas impactée comme d'autres régions de France, vous voyez, comme une grande partie de la France. Hein. On a quand même encore des alouettes, on a quelques bruants, on a des linottes, mais dans d'autres régions françaises, ces oiseaux sont en forte diminution. Hein. Et on peut aussi agir localement, c'est ce qui se passe avec la LPO pour informer les villageois pour l'accueil des hirondelles. Mais dans certains villages, même si les hirondelles sont attendues, ben elles n'arrivent pas aussi nombreuses, et même dans certaines zones rurales, elles sont moins nombreuses. Ça a été constaté ces derniers temps, à cause plutôt de la diminution des insectes. Oui.
D'accord. Et est-ce
une diminution globale.
Pardon. Est-ce que la présence d'oiseaux en ville et en campagne, est-ce que on est sur, est-ce que les trajectoires, on va dire, de population se retrouvent aussi en campagne et en ville? Je sais qu'il y a des espèces qui, du coup, bon, sont plus du milieu rural, et il y en a d'autres qui sont, on va dire, plus proches de l'homme. Est-ce que ces populations, du coup, vivent de la même façon?
On arrive à trouver quand même. Ça dépend de la taille des villes, vous voyez, parce que c'est vrai que dans des grands centres urbains, des banlieues qui sont très habitées, très aménagées, il y a peu d'hirondelles, vous voyez. Mais dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas de villes très importantes, ce sont des villes moyennes, donc où il y a des jardins, des parcs. Donc on évite, le Loir-et-Cher est une zone privilégiée à ce niveau-là. Mais on constate quand même des diminutions hein, parmi certaines espèces, comme les hirondelles de fenêtre, hirondelles rustiques aussi. Bon, elles sont globalement, sur 20 ans, 30 ans, il y a une diminution, même dans les villages soloniaux. Et puis dans les autour des villages soloniaux, alors que les exploitations agricoles, les élevages, l'élevage du mouton, ça on en parle souvent avec Didier Nabon, il pourra prendre le relais d'ailleurs pour dire ça. C'est-à-dire que, étant donné que toutes ces terres, toutes ces prairies sont en train de se reboiser progressivement, elles sont abandonnées, elles sont en friche, puis elles se reboisent progressivement. C'est des zones qui sont moins intéressantes pour les bergeronnettes, pour les alouettes, pour les linottes, et même en Sologne. Oui.
D'accord. Justement, quelles conséquences sur le reste du vivant cette évolution de la population des oiseaux peut avoir? Alors, vous avez j'ai le sentiment que globalement, les populations d'oiseaux sur le Loir-et-Cher, c'est plutôt pas mal. Mais on voit qu'il y a des déséquilibres quand même qui peuvent se créer avec une perte du vivant, en fait.
Oui, c'est une question assez complexe parce que, comme en Sologne, on a, c'est ce que je vous disais, on est quand même grâce aux étangs, grâce aux forêts, grâce à aussi une urbanisation qui est très modérée. Donc, grâce aux propriétés privées, on constate, moi, à chaque sortie que je fais en Sologne, j'ai un nombre d'espèces qui est considérable. Vous voyez, si je faisais la même sortie dans le Val-de-Loire, bon, c'est des espèces au bord de la Loire un peu plus spécialisées, qui dépendent de la Loire, mais en petite Beauce, vous voyez, dans la Beauce ou dans le Perche, encore le Perche vendômois, on n'a pas les effets négatifs de l'absence de haies complètes comme dans la Beauce, si vous voulez, comme dans la Champagne-Berrichonne, il y a encore des haies, mais il faut avouer qu'on est épargné par l'agriculture intensive à ce niveau-là, très intensive. Alors là, à propos de votre question, vous demandiez si quelle était la différence, oui, entre l'impact, c'est ça, entre les, si j'ai bien compris, parce que je me suis lancé.
Ma question, c'était plus de savoir si on va dire les modifications des populations d'oiseaux avaient des conséquences sur le reste du vivant. On le voit, vous parliez des insectes et notamment des insectes.
C'est une très bonne question, c'est une question complexe, parce que forcément, les oiseaux, une partie des oiseaux et fait partie du régime alimentaire de prédateurs, hein, vous voyez, comme des prédateurs supérieurs. Bon, il y a des oiseaux qui sont des grands prédateurs, mais il y a aussi, c'est une question qui demanderait à être creusé et développé, hein, je vous assure, parce que c'est une question complexe, ça. Il est forcé, parce que même chez certaines espèces, comme le moineau friqué, par exemple, c'est le moineau un peu campagnard, hein, par rapport au moineau domestique qui est courant en ville, et on constate que le moineau domestique peut être impacté aussi. Parce que, vous savez, pour les oiseaux granivores, ils ont besoin de, pour l'élevage l'éclosion des jeunes, ils ont besoin d'un certain pourcentage d'insectes. Vous voyez, il n'y a pas de régime alimentaire pur. Par exemple, pour les canards colverts, c'est pareil. Il faut des insectes au début. Hein. La diminution des insectes a forcément un impact. Et va favoriser peut-être. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que ce qu'on appelle, bon, c'est un mot un peu complexe, l'anthropisation, c'est-à-dire les milieux comme les zones d'activité qui se développent, vous voyez, etc. Ça favorisera plus les corneilles, les pies que d'autres espèces. Vous comprenez? Parce que il y a aussi dans les poubelles, les parkings de supermarchés. On trouve des choses, hein, on trouve des miettes, vous voyez, sur les parkings, alors qu'ils favoriseront les moineaux, les étourneaux, et puis au détriment d'autres espèces, dans des zones où devaient nicher peut-être des alouettes, peut-être des fauvettes aussi, hein, qui ne trouvent plus leur milieu alors qu'elles reviennent de migration. Il faudrait affiner, hein, mais c'est une question intéressante, hein, qui est en cours qu'on essaie de cerner actuellement les impacts de tout ça. Mais ce qui est certain, ça c'est une donnée majeure, c'est qu'il y a des populations d'oiseaux insectivores migrateurs qui diminuent, et peut-être aussi pour des raisons à cause de leurs conditions d'hivernage, vous voyez, en Afrique. Parce qu'il y a aussi du piégeage, des captures, tout un tas de destructions sur leur parcours migratoire. Ce sont des questions. Il y a plus qu'un facteur, c'est tout un faisceau de causes, vous voyez, qui agit. Mais la diminution des insectes est une très importante cause. Oui.
D'accord. Moi, je voulais du coup revenir vers Monsieur Nabon et poser un petit peu quelques questions sur le travail de la LPO. Au niveau local, malgré, on va dire, le bilan globalement positif, hein, de ce que j'en ai compris, on sent que la LPO quand même est actrice localement, on va dire, de la protection des oiseaux. Oui. Quelles sont les actions que vous menez, vous, localement ?
Eh bien, écoutez, je rappellerai seulement déjà le projet Oiseaux des fermes et des vignobles. C'est un projet qui touche 30 agriculteurs du nord au sud, qui donne l'occasion aux citadins d'aller s'aérer, d'aller retrouver les joies, les bonheurs, l'enrichissement de la campagne, des connaissances de nos agriculteurs, chez les agriculteurs qui font de la vente directe en plus de produits de terroir. Allez les voir et vous verrez les parcours ornithologiques que vous découvrirez avec votre smartphone, avec les bornes, les QR codes qui sont installés pour apprendre ce qui se passe un petit peu en termes d'ornithologie, de flore, etc. chez ces agriculteurs. C'est vraiment l'occasion de redécouvrir ces parcours ornithologiques. On va sur Internet, on fait OSV41, Oiseaux des fermes et des vignobles, et c'est parti, vous allez voir quelque chose de formidable à découvrir. Et j'entendais Alain Calais tout à l'heure parler des insectes. Effectivement, 80% d'insectes de moins en 30 ans, c'est une catastrophe qui est annoncée et qui réveille, qui impacte considérablement les populations d'oiseaux qui manquent de nourriture, forcément, avec une décadence pareille. Et donc, nous sommes aujourd'hui sur un projet avec le CDSAE d'Herbeau sur la gestion des espaces verts. Parce que nous considérons que les espaces verts aujourd'hui, qui sont gérés par les municipalités, sont d'anciennes prairies, qui étaient un réservoir, un potentiel énorme de biodiversité, d'insectes, etc., qui se sont retrouvés en pelouse, que nous gérons très mal, avec des tondeuses inadaptées,
qui broient les sauterelles, qui démembrent les grillons, etc. Et donc, il y a un travail d'organisation et de gestion de ces espaces verts qui doit être fait au plus vite. Sinon, je crois qu'on contribue encore, là, avec le moyen moderne que l'on a, à la disparition des insectes et on perd beaucoup sur la biodiversité. Donc, on a un beau projet qui va démarrer cet automne avec cette belle structure d'Herbeau. Et donc, ça, c'est important. Moi, je pense que aussi, on a un gros, comment dire, un label, on a un beau label, le label Refuge LPO, que nous développons avec les municipalités. Il y a des demandes extraordinaires des municipalités, des groupes privés, des grosses sociétés, Vinci, Storengy, Chambord, etc., qui viennent nous voir, qui nous disent, nous, on voudrait être Refuge LPO, on a besoin de faire reconnaître les actions biodiversité que nous connaissons, et je peux vous dire, je témoigne que ces structures n'ont pas seulement, cherchent pas l'image de la LPO pour se valoriser, mais elles cherchent quand même à être encadrées, accompagnées sur des projets d'enrichissement et de préservation de la biodiversité. Et on a des projets de 3 à 5 ans avec toutes ces structures qui nous permettent d'enrichir les connaissances sur le département en termes d'ornithologie et de porter à la connaissance des employés de ces structures, des scolaires de la commune, etc. Donc toutes ces choses-là peuvent être intéressantes pour le grand public également, et nous essayons de mobiliser les jeunes qui seront demain eux-mêmes en mesure d'accompagner cette biodiversité qui aujourd'hui se dégrade considérablement. Et tout ça grâce à un travail des bénévoles de l'LPO remarquable que je salue au passage. Et là vraiment nous sommes très très vigilants à l'LPO. Nous portons des projets que le national considère qu'on fait du bon travail, et je pense qu'on peut en parler longuement. On a beaucoup de projets avec beaucoup de structures nouvelles dans le département qui s'intéressent à cette biodiversité enfin, parce que jusqu'ici on a baligné ça d'un revers de main en s'occupant très très peu des oiseaux, des insectes, etc. Il y a une prise de conscience, et je crois que les événements récents démontrent que chacun doit participer. Nous devons tous participer. Notre devise, c'est entraide et partage, et je pense que la participation est aussi un facteur essentiel dans le domaine de la préservation de la biodiversité.
Très bien. Vous avez parlé de la période de confinement. J'ai cru voir que la LPO, au niveau national, avait lancé une action spécifique de décompte des oiseaux, chez des particuliers. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots?
Oui, c'était l'opération confinée, mais aux aguets. Donc, en fait, ce qui a été demandé, c'est de compter par liste sur un temps donné, comme ça se fait, je crois que c'est à la mi-janvier et la mi-mars, hein, tu me préciseras, tu me diras, Didier, hein, si je me suis pas trompé. Donc oui, donc de compter les oiseaux des jardins, les oiseaux qui fréquentent les mangeoires, hein, parce que vous savez, ça c'est quelque chose qui progresse un peu à l'anglaise, hein, parce que nos amis anglais étaient un peu les leaders dans ce domaine, de venir en aide aux oiseaux l'hiver, hein, de nourrir les oiseaux l'hiver, hein, parce que je crois que les Anglais tondent beaucoup leur gazon, mais bon, il faut, ça c'est certain que ça existe depuis des décennies en Angleterre, voire plus. En France, on le fait depuis quelques années seulement, et on se rend compte, c'est très sympathique, hein, ça accompagne, ça permet de se distraire pendant l'hiver, et puis on fait tout un tas d'observations. Donc cette opération confinée mais aux aguets, oui, ça a eu pas mal de succès, hein, puisque les données étaient saisies et envoyées sur un site qui s'appelle Faune France, et on a eu des observateurs aguerris, hein, qui ont vu pas mal d'espèces. Enfin, c'est pas le nombre d'espèces qui compte, hein, c'est plutôt le participer, hein. C'est comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Mais ça permet, c'est ça au niveau. Il n'y a pas de petites espèces dans la nature. Le moineau domestique, tout à l'heure, j'ai vu un nourrissage, un mâle de moineau domestique qui nourrissait ses deux jeunes. De temps en temps, alors c'était plutôt lui qui nourrissait après l'envol, vous voyez, il avait deux jeunes. Et la femelle arrivait, elle les nourrissait avec ce que je leur donnais, vous voyez, de nourriture, hein, puisque je les aide encore un peu, hein, parce qu'il y a eu des nuits fraîches. Et c'est très sympathique, hein. Et bon, en Sologne, on a encore beaucoup d'espèces comme ça. Et sinon, pendant le confinement, c'est ce que je voulais ajouter, enfin parler du confinement. Ça a été constaté un peu partout. Je vais un peu vous brûler, vous empêcher de nous poser cette question. On a eu une proximité inédite avec certaines espèces. Hein. Par exemple, moi, j'ai eu des buses qui se sont, buses variables, donc une espèce de rapace, d'oiseau de proie, hein, qui se sont installés près de chez moi pendant une période de fermeture d'une entreprise. On a bien vu que c'est ce que m'a dit une collègue ornithologue naturaliste hier, qu'on voyait les animaux aussi sur les routes, comme les routes étaient beaucoup moins fréquentées. Et c'est vrai que depuis la reprise de la circulation, il y a peut-être eu des collisions, mais les canards s'installaient sur les routes, on a vu des chevreuils très près des habitations, entre autres. Hein. Et toutes les espèces qui étaient méfiantes ont perdu leur méfiance. Et puis, il y a tout un tas d'observations inhabituelles, mais comme ça, bon, les activités humaines ont repris, évidemment, c'était une pause, hein. Une pause dans la fréquentation de certains lieux, hein, parce que les forêts étaient moins fréquentées. Je pense que la plupart des gens, avant le confinement, on voyait bien depuis un certain nombre d'années un intérêt grandissant pour tout ce qui concerne la nature, que ce soit l'alimentation naturelle, que ce soit les cultures. Culture bio, que ce soit les oiseaux, l'observation des animaux, la fréquentation des parcs naturels, la fréquentation, il y a un intérêt grandissant et je pense que c'est là qu'est la vraie révolution. Hein. Hein, c'est quelque chose de silencieux et puis qui une prise de conscience, hein, parce que aussi la présence des arbres, c'est très important de voir des arbres depuis sa fenêtre où que l'on soit, vous voyez. Si on n'a pas d'arbre, dès qu'on a un arbre, dès qu'on voit un arbre fruitier ou un arbre planté d'une espèce même exotique, enfin c'est peu importe, mais on a des êtres vivants, on a déjà, ça favorise les insectes, ça favorise, c'est bon pour la lumière, c'est bon pour le vert, c'est bon pour le moral, vous voyez.
Très bien.
ERT.
J'avais une dernière question, toujours un petit peu en lien avec le confinement. Ça a été une période un peu compliquée pour le milieu associatif en général, en particulier pour les bénévoles. Est-ce que pour vous, cette période a été difficile à vivre ?
Je pense que Didier va pouvoir vous répondre.
Hein. Oui, il est vraiment le temps que ce confinement, parce que on pourrait assister à une démobilisation un peu quand même, hein, c'est vrai. Donc là, on est reparti, on a fait deux réunions en deux semaines sur le comité de pilotage, etc. Et puis, il faut retrouver nos partenaires, quoi. Il faut retrouver les agriculteurs avec qui on travaille. On a de beaux projets avec les agriculteurs qui sont des acteurs essentiels sur la biodiversité. Et avec les jardiniers, on est en contact aussi parce que, comme on disait tout à l'heure, les insectes sont en voie de disparition. Il faut faire des fleurs, il faut mettre des fleurs, beaucoup, beaucoup de fleurs pour avoir des insectes. Donc tout ça, les bénévoles de l'ETO sont un peu à la manœuvre dans leur secteur les uns les autres et pour justement repartir sur des bases d'avenir. Hein. Faut repartir. Moi, je pense qu'il faut repartir à la base. On avait appris, hein, plusieurs missions naturelles et autres nous ont dit, il y a quelques mois, quelques petites années à peine, l'an passé, on va dire, que les insectes avaient diminué de 80%. Avant, on n'était pas du tout conscient de cette notion. Et ça nous permet de repartir sur une thématique essentielle. C'est la base de la nourriture des oiseaux, c'est les insectes. Hein. Donc, et la base de nourriture des insectes, c'est les fleurs. Donc, il faut repartir à la base pour
faut démarrer là, c'est des actions concrètes, la gestion des espaces verts, comme je disais tout à l'heure, l'agriculture qui se devient un peu plus compatible avec les souhaits des consommateurs, hein, plutôt bio, raisonné, etc. Il faut y aller. On est obligé, et nous, on accompagne, à ce niveau-là, on accompagne les agriculteurs autant que de besoin. Et je pense qu'on devrait pouvoir avancer et sortir de ce confinement avec à nouveau des sorties ornithologiques avec Alain Calais et d'autres ornithos qui nous, à chaque fois, c'est une merveille d'aller les accompagner dans nos campagnes, au bord des étangs de Sologne ou de la Loire et ailleurs, de découvrir ces oiseaux qui sont là, qui reviennent, qui sont en difficulté, bien sûr, souvent, hein, mais quand on rencontre, un jour on a rencontré 52 espèces d'oiseaux en un seul endroit, en 2 heures de temps, vu et entendu 52 espèces d'oiseaux à Vernon-en-Sologne. Mais c'était fabuleux, quoi. Eh bien, ça veut dire que faut être un fin connaisseur ornithologue pour nous emmener dans un endroit aussi emblématique, aussi chargé de d'ornithologie. C'est exceptionnel, c'est rare, même c'est très 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 rare. Et donc voilà, on peut aussi apprendre, partager les connaissances. Et ça motive les bénévoles de l'LPO, ça motive de nouvelles vocations. On a de nouveaux adhérents, de nouveaux participants à ces sorties qui sont ravis, enchantés de découvrir le milieu, de découvrir les oiseaux, la flore, la faune, etc. On fait vraiment le tour de la question, quoi.
Très bien.
Oui, c'est Didier a pleinement raison. Et d'ailleurs, il y a aussi un facteur qui a été non négligeable dans l'intérêt pour les oiseaux et la nature, c'est la photo numérique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'équipent sans s'équiper d'un gros téléobjectif, vous voyez, comme les photographes animaliers, éclairé ou professionnel, mais avec un simple appareil numérique qui permet de zoomer, de photographier une mouette au bord de la Loire ou un canard ou un grès buppé sur un étang de Sologne, c'est quelque chose qui démocratise énormément l'intérêt et évidemment, bien sûr, les photographes qui ont connu l'ère argentique, c'est-à-dire il fallait développer, moi je l'ai connu, hein, c'est-à-dire qu'on attendait le résultat du développement, puis souvent on était déçu, alors que maintenant on agit directement avec son ordinateur, et c'est un apport qui est constructif et pas négligeable du tout de la technologie, et qui vous voyez, dans les observatoires des réserves, il y a de plus en plus de photographes. Bon, ça peut occasionner quelques problèmes, mais c'est aussi une mode, mais une mode positive pour la nature, hein, qui vient des pays anglo-saxons, ça. Hein. Et alors que la chasse, vous voyez, la chasse ou l'observation exclusive, vous voyez, que ce soit chasse exclusive ou observation exclusive, mais c'est plus ce rapport à la nature. Il y a différents rapports à la nature maintenant. Il y a la photographie, il y a tout un tas de façons d'utiliser la nature de manière pacifique, bien sûr. Enfin, même les chasseurs raisonnés, bon, sont aussi des photographes, ou, enfin, des ornithologues ou des mammalogistes. Vous voyez, parce que c'est beaucoup plus complexe. La réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on en fait des fois dans les conflits entre chasseurs écologistes. Hein. Et par contre, bon, c'est vrai qu'on est un peu déçu de certaines décisions nationales, hein, par rapport à certaines espèces. Il y a toujours des problèmes avec les grands prédateurs. Ça, en France, on n'a pas tout un, malgré le retour providentiel du loup, qui est une très très bonne nouvelle, mais on a toujours des problèmes avec d'autres prédateurs comme l'ours, comme le lynx, surtout les mammifères. Les grands, le balbuzard pêcheur est très bien accueilli, hein, en France. Les vautours, bon, bah, ça avait posé des problèmes, mais maintenant ça n'en pose plus avec les éleveurs. On met du temps en France parce qu'on se méfie aussi des initiatives, hein, qui viennent d'en haut, mais finalement, sont des choses qui ont été très étudiées et qui ont été expérimentées avec succès, hein, dans beaucoup de pays. et ça permet de tout le monde peut se côtoyer comme ça, tous les différents usagers de la nature peuvent se côtoyer hein, sans problème. Oui.
D'accord. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Je vous dis à une prochaine fois. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet dans l'émission.
Oui, très bien, très bien. Oui.
Avec plaisir.
Je n'hésiterai pas à vous recontacter si vous avez des actions à faire valoir, ou en tout cas à promouvoir. Je serai ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission.
Ok, pas de souci. Oui. Pas de souci, pas de souci.
Voilà, c'était très intéressant.
Je vous remercie.
Voilà, au revoir.
Au revoir. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le podcast. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de la radio studiozen.fr à la page de l'émission La Chose Commune. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, car cette fois-ci, on est bien reparti pour agir pour la chose commune.